Un été à Arles. Culture, photographie, gastronomie, art de vivre. Un podcast du Bazar, présenté par Géraldine Saratia.
On est à Arles, une journée de juillet pendant les rencontres photos. Nous sommes dans une pièce, il n'y a pas trop de lumière d'ailleurs. Donc nous avons la possibilité d'être un petit peu au frais par rapport à la chaleur écrasante qu'il fait dehors.
La voix que vous venez d'entendre est celle de François Allard. François Allard est un des plus célèbres photographes d'intérieur. Au cours de sa carrière, il a immortalisé des dizaines de milliers de chambres, de maisons, certaines célèbres comme la Villa Malaparte où a été tourné le Mépris de Jean-Luc Godard à Capri, d'autres moins. Ce sont ces intérieurs, pense-t-il, qui sont le plus à même de rendre compte de la personnalité de celui ou celle qui les occupe. Sa photographie, dit-il, est l'inverse d'Instagram. François peut attendre 15 ans avant de prendre la photo qu'il désire. C'est l'intime, cette recherche de l'intime, qui noue dans l'enfance son rapport à la photographie. Enfant malade, il commence à photographier la maison de ses parents, dans laquelle il vit et dans laquelle il passe le plus clair de son temps. Cet amoureux de la presse, qui a travaillé des dizaines d'années pour Vogue, GQ et les titres du Condé Nast américain, partage depuis 15 ans sa vie entre New York et Arles. Il s'est installé dans la ville romaine et dans le très populaire quartier de la Roquette, bien avant que cela ne devienne la mode. Il y a acheté une demeure somptueuse, 18e siècle. Et quand on s'y promène, quand on éprouve l'enfilade de pièces à haut plafond, on est à chaque instant, à chaque recoin, saisi par la culture, la beauté, le goût. Je me suis assise à ses côtés, dans un des salons au ton légèrement grisé, une pièce emplie de masques, de boiseries, de tableaux anciens. Je lui ai demandé qu'il me raconte son Arles. François Allard, bonjour. On est dans votre maison à Arles. C'est une maison que vous avez achetée en 90. Vous disiez que vous l'aviez achetée parce qu'elle ressemblait à celle de...
De Fête-Chourmelé, exactement. Je n'étais venu qu'une seule fois à Arles dans ma jeunesse. C'était une ville que je ne connaissais pas du tout. Et puis, par un hasard, je suis tombé sur cette maison qui n'était pas encore à vendre, qui n'avait pas été encore ouverte aux étrangers. Parce qu'en fait, c'était une maison qui appartenait au... un aristocrate arlésien qui était royaliste. Ça avait été, parce que j'ai retrouvé après des discours de Maurras et des choses comme ça, donc c'était un bastion Action française. Ce sont des gens qui vivaient complètement enfermés depuis la Révolution française. C'est-à-dire que pour eux, tout s'était arrêté à la Révolution, ils pensaient que le roi allait revenir très prochainement, et donc la maison n'avait jamais été bougée. Ils vivaient dans une seule pièce et le reste... était vraiment ce qu'on peut voir ici, les toits, les portes, les couleurs, rien n'avait bougé, donc c'était vraiment dans son jus, voilà. Et donc je suis tombé sur cette maison et elle m'a fait penser effectivement que ça pouvait être, j'allais dire, une espèce de, une enfilade de pièces qui était absolument vide et où pouvait moi-même fabriquer ma propre histoire.
Et alors donc, on est en 90, Arles, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble un petit peu au contraire de ce que c'est maintenant, c'est-à-dire... tout le monde m'a pris pour un fou de venir m'installer ici. Tout le monde m'a pris pour un fou de venir dans ce quartier à la Roquette, qui était sur la place où il y a maintenant 10 bistrots. On vendait plutôt de la drogue que des plats raffinés. Et ce que j'aime particulièrement dans cette ville, c'est que c'est une ville romaine. Donc ça gardait sa taille, ça gardait une certaine cohérence géographique. Parce que la ville représente quasi le même superficie qu'à l'époque romaine. Et puis je trouve que maintenant, elle renaît de ses cendres. C'est-à-dire que c'était une ville qui a été très riche sous le temps des Romains et qui a été très riche avec le Rhône qui servait au début du 19e tous les bateaux à vapeur. Il y a une très belle photo d'ailleurs de Nègre où on voit une succession de bateaux à vapeur sur le Rhône et qui donnait l'idée vraiment de richesse. de Arles. Et après, malheureusement, il y a eu beaucoup de renfermement sur soi-même.
Il y a de la précarité quand même. Hein. C'est une ville où il y a...
Énorme. Parce qu'il n'y a plus d'usines, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de culture. Parce qu'avant, il y avait des centaines de mecs pour piquer le riz en Camargue et que maintenant, il y a 3 machines. Et je trouve que maintenant, ce qui est formidable, c'est de voir la ville renaître avec des projets culturels qui sont... plus qu'intéressant. Il y a vraiment, tout d'un coup, ça prend une dimension de limpidité qu'il y avait avant. Et ce qui me plaît maintenant, c'est de voir justement cette ville revivre son sommet, même artistique, avec l'époque romaine. Voilà.
Elle revit son potentiel aujourd'hui.
Exactement. Et pour des raisons totalement différentes, pour une succession d'actes comme ça. Et voilà, et je trouve ça assez formidable et ça me fait plutôt très plaisir à la fois d'en faire partie. Mais comme je ne suis pas arlésien et que les arlésiens sont très pas faciles d'accès, ils se cachent un petit peu les uns les autres, ils se protègent. Donc j'aime bien mon rôle ou ma situation qui est dedans et pas dedans. Et je tiens beaucoup à cette liberté.
Parce que vous en bougez ou parce que vous n'êtes pas natif ?
Ah ben j'en bouge tout le temps. En fait ici c'était juste une maison, parce que normalement je suis résident à New York en Amérique. Alex Lieberman m'avait fait venir pour travailler pour tous les journaux de la Condé Nast.
Pour préciser un peu à nos auditeurs, vous êtes très connu pour la photographie d'intérieur, mais pas uniquement. Vous étiez diplômé des arts déco, vous avez fait vos débuts à Paris et ensuite... ce directeur artistique très connu vous a demandé d'aller aux États-Unis et là vous avez travaillé pour des titres tels que Vogue américain,
Vanity Fair, GQ, voilà. Et donc ici c'était toujours comme un, j'allais dire comme un, une oasis de tranquillité par rapport à la vie new-yorkaise. Et je trouvais que c'était une très belle, très beau mélange de d'être à la fois à New York et à Arles, parce que il y a une chose qu'elles ont en commun, c'est la qualité de la lumière. On retrouve avec le Mistral, surtout en hiver. Je préfère Arles en hiver qu'en été. Et on y retrouve exactement cette qualité, le bleu de New York quand il fait beau, le bleu de Arles quand il fait beau, le vent qui souffle, le vent du Rhône, le vent de la mer américain. Donc il y a une certaine énergie que donne ce soleil et cette lumière. Curieusement, j'ai vu beaucoup de relations. D'abord, il y a la mer qui est proche, il y a la présence de l'eau. La chaleur, voilà exactement. Le froid, la chaleur, le temps un petit peu particulier. Les gens ont une idée un petit peu préconçue, parce qu'en général, ils viennent un jour d'été, 2-3 jours, il fait beau, ils voient des choses intéressantes, après ils repartent. La vérité quotidienne est plus difficile et plus âpre. Je pense que les gens du terroir ressemblent souvent à leur terre. Et donc, il y a une certaine dureté qui est due vraiment au fait que pendant des années, d'essayer de faire pousser des choses dans des terres salées n'était pas facile non plus. Elle faisait partie de cette frontière.
Un été à Arles. Un podcast du Bazar. François Allard.
Au moment où on se parle, c'est les rencontres d'Arles. La ville est un peu en ébullition. C'est une période que vous aimez bien ?
Non, je trouve qu'il y a trop de monde. Et je trouve que de temps en temps, trop de photographies tuent la photographie.
Trop d'images.
Trop d'images. Trop d'images partout. Beaucoup, malheureusement, des mauvaises. Enfin, pas toujours des bonnes. Donc, on a envie de faire une cure de non-photographie dans cette époque.
Comment vous avez rencontré la photographie ?
Très tôt, parce qu'en fait, je suis né hémiplégique à 6 mois. Et donc, ça avait laissé des séquelles de langage chez moi. Donc, je me suis mis à parler qu'à partir de 14 ans, des choses comme ça. Mon seul rapport était par l'image. Donc, je voyais pas beaucoup de gens. J'étais très renfermé. Mon seul rapport avec l'extérieur était dans la bibliothèque de mes parents et de regarder des livres. J'ai commencé à collectionner très tôt livres et magazines. Et pour moi, c'était vraiment une manière de rêver le monde extérieur. Et puis, mes parents avaient une belle maison et... souvent, des photographes connus ou moins connus venaient photographier la maison de mes parents ou s'en servir de fond pour faire des photos. Et je n'allais pas à l'école et je les regardais travailler.
Il y a eu Helmut Newton qui est passé par chez vous ?
Des gens comme Helmut, comme Karen Radkai, bon, voilà, toute une école générationnelle. Ma mère avait aussi travaillé pour la revue L'Œil, travaillait avec des photographes qui étaient assez d'avant-garde à l'époque. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout le rapport que cet objet qui était tout petit pouvait être à la fois le miroir de ce qu'on regardait et une protection de l'extérieur envers l'extérieur. C'est formidable de pouvoir décider de ce qu'on veut y mettre. C'est-à-dire, on est totalement en puissance par rapport à l'image qu'on veut créer.
Et donc vous aviez un petit appareil photo assez vite ou...
Non, j'ai pris une chose très simple, j'ai pris l'appareil de mon père, j'ai commencé à photographier ma chambre. Donc c'est vraiment autour de la chambre, autour de l'intimité, autour des objets que mes parents avaient, que j'ai commencé à explorer, en fait, d'une manière très simple. Mes parents ne voulaient pas que je sois photographe, donc ça m'a donné encore plus envie de l'être. Et à partir de 15 ans à peu près, je passais toutes mes vacances scolaires à travailler comme assistant. J'essayais de trouver toutes les possibilités d'apprendre. Ce qui m'a beaucoup servi en étant assistant photographe, c'est de surtout savoir ce qu'on ne veut pas faire. Donc ça m'a permis de gagner beaucoup du temps après. Parce qu'on apprend aussi bien ce qu'on a envie de faire, mais c'est très important d'apprendre à ce qu'on surtout veut pas faire.
Et vous disiez, votre rapport à la photo, il a commencé sur l'intérieur, sur la chambre, sur l'intimité. Cette direction, ça a été votre direction tout de suite ?
Très vite, j'ai collaboré pour un journal qui venait de commencer, qui s'appelait Décoration Internationale, à Paris, voilà. Et donc j'étais à l'école, aux Arts Déco. Donc je quitte les Arts Déco parce que j'arrivais plus à être à la fois aux Arts Déco, travailler comme assistant, et tout d'un coup, on me proposait d'être l'assistant du directeur artistique. Donc je commence à travailler au journal, et mon rôle en tant qu'assistant de Fred Ravillère, qui était un grand directeur artistique suisse de l'époque, était justement de trier les photos des autres. Donc c'était, on appelle ça un photo-éditeur en anglais. Donc tout d'un coup, on se sert de ce que les autres peuvent voir pour créer son propre univers de langage, sa propre écriture.
Et alors c'est quoi une bonne photographie d'intérieur ?
Une bonne photo d'intérieur, c'est celle qui est le miroir de la personne qui est photographiée. Et c'est pour ça que j'aime en fait tant maintenant ne photographier quasi que les maisons d'artistes, parce que je pense que c'est à la fois leur meilleure autobiographie. Ça raconte des choses. L'association de la maison raconte des choses. C'est-à-dire que là, je quitte vraiment, j'allais dire, le domaine du documentaire photographique d'intérieur pour essayer de faire une chose un peu plus artistique qui essaye de parler plus de sensibilité, d'intimité. Et voilà. J'ai toujours aimé le fait de sentir que les gens sont dans la photo ou dans le lieu, mais sans les voir. Je ne sais pas comment expliquer comment j'arrive à être plus humain en ne les montrant pas que...
Qu'en les montrant.
Un été à Arles.
Vous avez photographié plus de 4000 intérieurs, ça doit être encore plus que ça aujourd'hui. Vous avez également photographié des villas très célèbres. Il y a une dimension assez cinématographique, assez cinégénique aussi dans votre travail. Et notamment, vous avez photographié la Villa Malaparte, où a été tourné Le Mépris. Comment ça s'est passé ?
Sur la Villa Malaparte, c'est une longue histoire, parce que Malaparte était un des écrivains favoris de ma mère, qui avait eu de la tuberculose et qui était resté en sanatorium pendant des années, donc avait lu énormément. Donc c'était, comment dire, un écrivain dont j'avais vu les livres à la maison. Et ensuite, j'ai travaillé avec une dame qui s'appelait Beatrice Monti, qui avait eu une galerie de tableaux dans les années 60 à Milan, et dont le père était le meilleur ami de Malaparte, et qui, elle, passait tous ses étés avec lui à Capri, dans sa maison. Et donc, lors d'un reportage pour Vanity Fair à Capri, elle commence à me raconter ses histoires d'elle, jeune fille, les vacances à Capri, cette liberté, lui, iconoclaste. Et tout d'un coup, elle commence à me raconter l'histoire de cette maison. Et donc, quand je vais voir avec elle de l'extérieur la maison à Capri, tout d'un coup, c'est une révélation parce que ça mélangeait deux choses que j'aimais beaucoup, qui étaient les livres, la littérature et l'architecture. Et surtout après, quand j'ai pu aller à l'intérieur, un esthétisme absolu. Donc, c'est-à-dire qu'il appelait pas ça la Villa Malaparte, il appelait ça la Villa comme moi. Donc, vraiment, il avait affirmé qu'un acte de maison, une maison, pouvait être la meilleure réflexion de ce qu'il était lui, puisqu'il appelait ça la maison comme moi. Voilà. Et donc, ça m'a pris beaucoup d'années, parce que c'est très difficile d'y aller. Elle était en plus très abîmée à l'époque où je l'ai photographiée. Donc, ça m'a pris à peu près 15 ans de patience. Ma photographie, le contraire, j'allais dire, de la photographie d'Instagram. C'est-à-dire, j'attends 15 ans pour passer une heure quelque part. Et en vraiment essayant de réfléchir, comment l'histoire peut m'y emmener. C'est comme une recherche. Je crois que si on a vraiment envie des choses, elles arrivent.
Vous avez été un grand amoureux de la presse.
Ah oui.
Est-ce que c'est toujours un objet qui vous intéresse aujourd'hui ?
Non, et c'est ça le problème. J'ai travaillé très tôt dans la presse, j'ai eu des contrats d'exclusivité pour la presse, je ne pensais qu'à la presse, je ne voulais faire que de la presse. La presse me faisait rêver, de la presse anglo-saxonne. Première fois que je travaille pour Vogue américain, pour le New York Times, pour le Time Magazine. Et puis, la crise de la presse arrive, je pense qu'elle n'a pas vu les choses venir. Je pense que les gens qui étaient à la tête de ces groupes n'ont rien vu passer. On pensait que tout serait comme avant. Ils ont pris du retard. Ce qui est incroyable, c'est que moins la presse marche et plus les livres augmentent. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de dichotomie entre la chute de la presse et les autres médias qui prennent un envol.
Vous pensez à quoi ? Aux livres ? Au son aussi aujourd'hui ?
Aux livres, au son, au podcast. Ce qui est bien avec la photographie, c'est que ça peut s'adapter. On peut en faire du livre, on peut en faire des expositions, on peut le transformer. Et je trouve que c'est cette liberté et non pas être réducteur. Je n'ai jamais compris de la part de beaucoup de mes confrères qui, quand ils ont commencé à avoir moins de travail parce que la presse leur donnait moins de travail, n'ont pas continué ou n'ont pas fait un travail personnel. Ce qui est important, et ça vraiment je crois dans toutes les formes d'activité artistique, c'est qu'il faut produire, il ne faut jamais cesser de produire. Et si des gens ne vous donnent pas ce que vous avez envie de produire, il faut continuer à le faire pour vous. Et je trouve qu'il y a trop de gens, encore maintenant, parce qu'ils ont été très gâtés, ne produisent des images que quand ils sont en commande. Il faut que tout d'un coup, vous deveniez votre propre sujet.
C'est-à-dire, ce n'est pas une réponse à une injonction, c'est un désir qui part de vous.
Exactement. Et ça, ça change radicalement les choses. Je trouve que c'est toujours cette recherche incessante de nouvelles choses qu'on a envie de faire ou envie de photographier. Je pense que l'envie doit être au centre de la préoccupation.
Est-ce que Arles, c'est une ville qui a beaucoup éveillé votre désir, justement, en termes de photographie, de production d'images ? Vous avez eu envie de la photographier ?
Non. C'est pour ça que je ne l'ai pas photographiée. On m'a souvent dit, mais pourquoi tu photographies pas Arles ? Arles m'a donné envie de photographier d'autres choses. De photographier des vêtements au musée Arlatan, des tableaux au musée Arlatu, d'aller explorer toutes les nouveautés qu'il trouve dans le Rhône au musée de l'Arles antique. Donc c'est plutôt le sujet ou l'histoire d'Arles qui m'inspire.
Un été à Arles. François Allard.
Si Arles était une heure de la journée, ce serait laquelle ?
J'aime le matin, j'aime la lumière du matin. J'aime me réveiller quand la ville est encore endormie. J'aime travailler tôt le matin. Donc pour moi, c'est fait le matin. Un matin d'hiver, un matin de Mistral, un matin avec cette lumière qui vous réveille hein, et qui vous donne envie d'aller regarder ce qui se passe, d'aller lever les yeux.
Si elle était une couleur ?
Bleu.
Si elle était un animal ?
Une tarasque. Une tarasque est un animal mythique provençal qui était une sorte de dragon qui habitait dans les lacs. Par exemple, il y a la tarasque de Tarascon. On a toujours dit qu'elle habitait en Camargue. Voilà, donc c'est un personnage mythique qui faisait peur aux enfants et qui était comme une bête monstrueuse de l'Antiquité.
Et si elle était une image d'intérieur ?
Un tableau de Raspail où il y a quand même là les femmes en train de coudre dans un atelier et qui vraiment donne ce côté intime du 18e.
Merci beaucoup François Allard. C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Fanny Martin, produit par Le Bazar et Géraldine Saratia. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre tout l'été à la découverte de Arles et de ses personnalités. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur iTunes, en nous envoyant des messages sur l'Instagram du Bazar de Arles, @c'est le bazar, ou sur le mien personnel, @géraldine saratia. Je vous souhaite un bel été en Arles.
Un été à Arles.
Podcast du Bazar,
présenté par Géraldine Saratia.